Bonjour à vous et bienvenue dans ce 41e numéro d'Ethnovibro, l'effet social total. Une émission indisciplinée de sciences sociales, d'expérimentation pluridisciplinaire, mais aussi de pérégrination ethnographique. C'est encore, comme chaque mois, une émission très très spéciale que nous vous proposons, je dis nous, car ce numéro est co-réalisé avec Antoine de Perret, que vous connaissez bien, chers auditeurs d'Escapade. Nous revenons d'un périple dans le nord-est du Brésil, d'où Antoine vous a déjà envoyé quelques chroniques quotidiennes d'informations brésiliennes locales et nationales. Nous avons eu la chance d'y assister aux préparatifs carnavalesques, de rencontrer nombre d'agitateurs culturels et politiques de la ville de Recife et de l'état du Pernambouc en général. Cet opus exclusif se fera alors en deux mouvements. D'abord, un reportage d'Antoine sur la Livroteca Bricanti, au lieu d'éducation populaire du quartier du Pina à Recife, avec la rencontre magique de Cacao et de son équipe de bénévoles que vous allez rencontrer. Et dans un second temps, je vous propose une lecture de quelques extraits du texte d'Elton Krenak, Idées pour retarder la fin du monde, paru en français aux éditions Dehors. Tout ça sur un fond sonore immersif pré-carnavalesque. C'est parti pour le décollage et la saudade. Muito obrigada. Ethno Vibro, l'effet social total. Radio Escapade.
Passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia!
Aujourd'hui, nous dirigeons vers Pina, un quartier au sud de Recife, pour aller y découvrir une bibliothèque un peu spéciale dont on nous a beaucoup parlé, la Livroteca Brincante do Pina. Spéciale car elle est autogérée et située dans un des quartiers les plus pauvres de Recife, lui-même encerclé par les gratte-ciels scintillants des deux quartiers les plus riches de la région, Boa Viagem et la partie nord de Pina. Près de livres évidemment, mais aussi lieu d'accueil pour les enfants du quartier, espace de production musicale, la Livroteca Brincante do Pina, c'est donc bien plus qu'une bibliothèque. C'est un espace de résistance populaire aux multiples pressions et dangers qui s'exercent sur toute la communauté du quartier. Pour visiter la Livroteca, nous avons rendez-vous avec Cacao. Enfant du quartier, il est à l'origine de ce projet et continue de le porter, presque 30 ans après, avec toute sa ferveur et toute son énergie. Véritable agitateur, poète, animateur, musicien, Cacao c'est donc aussi plus qu'un bibliothécaire. C'est une légende du quartier et l'âme de la Livroteca. C'est entouré d'une ribambelle d'enfants et d'autres complices bénévoles de la Livroteca que nous commençons cette visite.
A parte aqui de baixo é área de educação. Aqui nós temos livros, sabe, para emprestar. São quase 10 mil livros.
Ici, il y a la bibliothèque, c'est la partie dédiée à l'éducation. Là-bas, on a plus ou moins 10 000 livres.
A intenção é facilitar o acesso ao livro sem nenhuma burocracia.
Du coup, donc, l'intention, c'est de rendre plus simple l'accès aux livres sans bureaucratie.
Porque nós negros, alguns anos atrás, a gente não podia aprender a ler.
Le peuple noir, nous noirs, on n'avait pas le droit d'apprendre à lire.
Então, o acesso cultura, informação, ao conhecimento, nos foi negado por muitos anos. A biblioteca, a intenção da biblioteca é essa, é um lugar, sabe, com livros, com arte, cultura, de fácil acesso e de graça. A gente só paga se for de graça.
O Cacá a commencé ce projet-là en trouvant des livres dans la poubelle. Et lui a trouvé un sac de poubelle. Et dans le sac de poubelle, il a trouvé des livres quand lui était jeune. Et du coup, lui a décidé d'arrêter avec sa vie d'avant et de commencer ce projet de librothèque pour donner l'accès à la culture, à les gens pauvres, les gens de la communauté qui ne pouvaient pas accéder. Et quand lui avait 20 ans, lui avait déjà 90 livres. Et maintenant, ce sont plus ou moins 10 000 livres. Et oui, de culture, des arts, de n'importe quoi, poésie aussi.
Nous commençons la librothèque. Numa palafita.
Du coup, le projet de la bibliothèque n'a pas commencé là, mais a commencé dans une maison vraiment bidonville, à côté du canal, ici à côté. Et avant, dans ces maisons, il habitait des trafiquants de drogue. Et le dernier trafiquant était tué, en fait. Et après, on a commencé ce projet de bibliothèque.
Aí, eu e minha companheira da época compramos a palafita, uma parte para morar e a outra para fazer a livroteca. A partir daí veio o apelido de traficante de livros. Sou idiota.
E Cacau e sua ex-copine, eles ont acheté la bidonville, la maison de bois. E après ce moment-là, eles ont commencé à être appelés traficantes de livros.
Antes daqui, sabe, já passamos por 4 lugares alugados.
Et então, ils ont fait, c'est déjà 4 fois qu'ils ont changé l'endroit pour faute de financement. Et du coup, ils ont changé et jusqu'à 2013 qu'ils ont occupé cet endroit, cet bâtiment.
Hoje, sim, a prefeitura já reconheceu que é nosso.
Du coup, et maintenant, la municipalité déjà a reconnu cet endroit et pour Cacao, il n'y aura pas de problème. Et pour éviter ça, lui avait déjà écrit un poème qui s'appelle « O poema do livro », c'est-à-dire le poème de livre.
J'ai pu commencer?
Sim.
Poema do livro. Cuidado comigo, eu quero ser seu amigo. Sou cego, surdo e mudo, mas informativo. Além de ser divertido. É melhor você se render e nesse barco entrar. O mundo é de quem lê. Viaje comigo sem sair do lugar. Quando eu for caro e você não puder comprar, venha aqui na biblioteca buscar. Aí nós vamos agora aqui na sala do tesouro.
Salle du trésor. Là, on est dans une pièce remplie de rayonnage. On ouvre le store parce qu'il fait un peu chaud quand même.
O livro já me levou a muitos lugares e horizontes, né? Biblioteca de Roma.
Un article de journal qui parle de lui. Traficante de livros. C'est écrit, on voit une photo de Cacao avec sa guitare aussi.
Au Festival International de Cinéma de Roma. Aí eu viajei.
Ben, du coup, des amis italiens ont fait ce documentaire sur lui, Histoire du trafiquant de livres. Et ce film a gagné un prix du Festival International del Cinéma à Rome.
Et ce film de 2010.
Après le film de 2010, et ils sont ouverts beaucoup de portes, d'occasions pour ces projets. Cacao a voyagé beaucoup, il était beaucoup de fois en France et au Mexique. Il y a aussi un enfant en France maintenant.
Também eu já viajei pour México, Venezuela et Espanha. Nós temos quase 40 voluntários, o orçamento quase zéro. Et a gente faz
maintenant, l'asso, plus ou moins 40 bénévoles. Et ils ont peur d'être ONG, parce que l'ONG, c'est la commercialisation de la misère.
Pour nous, misère n'est pas négocio.
Tem autonomie.
Total.
Total.
A gente não pede. Nós vamos lá exiger.
Ils sont fatigués de faire la manche, de demander l'argent. Et du coup, ils ont quelques aides pour l'État, mais ils ne considèrent pas ça une aide, mais ils vont exiger de l'argent et des subventions parce qu'ils font un vrai travail dans la communauté.
Nous faisons le papel du Estado, c'est ça, non?
Mais aussi, ils utilisent des formes d'autofinancement, on peut dire ça. Par exemple, ils font des livres. Cacao est aussi écrivain et poète. Du coup, il a écrit un livre qui est traduit aussi en une autre langue. Ils vendent ça aussi en Espagne, en France. Et avec l'argent gagné, il va continuer à financer le projet de cette association.
L'autre forme est la musique. Nous avons un groupe de musique cultural. Já viajamos para a França e para a Espanha algumas vezes.
La musique, c'est notre côté, c'est notre tournée. Face de l'assaut. Ils tournée, ont déjà fait des tours en Europe, en France, en Espagne. Ce que le groupe musique gagne, la moitié est donnée à l'assaut.
Là, en France, c'est Sans Prétention.
Le nom du groupe en France s'appelle Sans Prétention.
Aqui no Brasil, Pé de Bode.
Et ici, Pé de Bode.
La autre forme
une autre façon pour gagner l'argent, c'est faire des concours publics. Ils ont déjà essayé de le faire.
La autre forme est volontariat, doações para de amigos. Nós temos um grupo de mais de 40 voluntários.
Et ouais, comme on a déjà dit avant, les bénévoles et les donations de l'argent.
Tu veux nous dire, toi, vu qu'on parlait des bénévoles qui viennent du monde entier, comment t'as déboulé ici?
Oui, je m'appelle Enrico, je suis italien de Bologne et simplement un ami à moi était là deux mois, il y a deux ans. Il m'a parlé de cet endroit, il m'a dit qu'il était en réalité incroyable. Lui est resté, il devait rester quelques jours, en fait il est resté deux mois. Et du coup, j'ai décidé de passer l'unique mois que je devais passer au Brésil, j'ai décidé de rester là.
Et alors on fait quoi ici quand on est bénévole?
Mais en fait, je m'occupe de la musique. Je suis musicien en France et en Italie aussi, j'ai fait de foro et je suis là pour étudier un peu le foro, les corco. Du coup, je suis un bénévole un peu différent parce que en fait, les autres s'occupent plutôt de l'éducation des enfants et du cirque, ils font tous les ateliers. Et moi, je fais un peu ça et un peu la musique parce qu'on a aussi, comme on a dit avant, il y a un groupe de musique qu'on fait corco traditionnel, mais aussi on mélange différents styles, on fait corco, foro, rock, que c'est foro et rock, shochi et reggae, que c'est shochi et reggae, du coup des choses mélangées. Et du coup, depuis que je suis là, j'ai contribué à la musique. On a fait déjà des gravations, des enregistrements dans le studio. On a enregistré un frevo, que c'est un genre musical pour le carnaval. Et on va enregistrer des autres choses. Et demain, on va faire un concert, par exemple. Et je vais contribuer avec un accordéon.
Quando criança, eu gostava de tomar banho de maré, ó. Ah, eu pegava xié, pegava gaiamu, aí tirava o mosquiteiro de volta. Pai pega manjuba lá na praia da jangada. Eita, menino, vai comer assadinha com cuscuz. Oh, vida de maré sofrida, bem lembrada. Ai, Jesus, abençoa os pescadores. Quando eu era criança, sempre pescava no Capibaribe. Lá tinha siri, guaiamu e caranguejo, entre outros bichos que viviam ali. Quando eu era criança, na maré. Capibaribe, hoje não é mais o mesmo, e ainda mata a fome dos filhos de Josué. Josué sou eu, Josué você, tenha consciência, não deixa
criançada. La 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 la.
Au maître des masques, vite fait, ce qui se passe là. Tu peux nous expliquer ?
Bah, y a le carnaval qui arrive incessamment sous peu. Et du coup, on s'était demandé ce qu'on pouvait faire avec eux. Et donc ça, c'est une petite technique de masque en plâtre qui prend un peu de temps à faire, mais qui est assez rigolo parce que ça leur fait un masque personnalisé à chacun qui est vraiment fait mouler sur leur visage. Pour certains, c'est un peu dur. Il y en a qui ont, par exemple, elle a 3-4 ans, c'était un peu chaud pour lui faire, mais ça va, c'est assez drôle. Et du coup, donc on leur fait leur masque en plâtre, après ils le bombent à la peinture, et après ils peuvent faire des petits dessins dessus, quoi. Donc la thématique, c'est couleurs, c'est s'ils veulent faire des monstres, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, c'est leur masque à eux, l'important c'est qu'ils s'amusent, quoi. Moi, c'est Paul.
Et ça fait longtemps que t'es là aussi ?
Ça fait un petit mois.
Et tu fais quoi ici ?
Oh bah volontaire, j'habite à la Casa Verdi comme les autres, je suis arrivé avec ma copine Elina là il y a un mois. Puis c'est un projet qui nous tient pas mal à cœur, c'est un projet social, c'est un projet qui a du sens. Un projet qui demande beaucoup de boulot. Cacao, c'est un peu sa vie ici. Donc, et tu le ressens. Tu le ressens quand il marche dans la rue, tu le ressens quand il est ici, tous les enfants lui sautent dessus. Il a une façon d'être avec les enfants qui est assez incroyable, et pour des gosses comme eux là, ils ont pas grand chose. Moi, c'est un quartier hyper pauvre quoi ici.
Tu veux dire quelque chose, le jeune homme sous son masque, il sait pas ce qui se passe.
Un gato que tá aqui. A gente faz aula de piano, aula de circo aqui. A gente aprende muito aula de circo, faz o exercício.
Et vous, vous venez ici tout l'année ?
Tout le dia, je viens pour cá. Et c'est bon de venir pour cá. Oui, ici, on peut brincar, pode se divertir et pode jouer avec les amis.
Obrigado, Pomica.
Tchau, Tony.
Ei! Ei!
Non, tem muita gente aqui.
A pequena!
Tá furada!
Allez, on monte à l'étage, visiter les sables du haut.
Non!
Il sera peut-être un peu plus frais. Escalier tout peint.
Pronto, vamos lá.
Na sala de esporte.
Salão social, cineclube, oficinas, cursos e a cozinha.
Então lá il y a la cuisine, il y a le cinéma, il y a les activités éducatives. Et il y a écrit dans le mur qui mange livre. Qui mange livre,
ouais.
Est livre.
Parce que livre et libre, ça se dit pareil.
Préparation pour boi.
O nosso boi do mangue.
Voilà, préparation boy, carnaval.
É um boi anarco infanto juvenil para crianças crescidas. Vai sair sexta-feira, dia 9, às 15 horas.
Donc là, on est devant le bœuf qui va sortir, le boi du mangue.
Oui, oui. Sexta-feira, vendredi, par le vendredi du carnaval. Et
avec dessus, il y a des crabes. Il y a un crabe LGBT aussi.
Il a une mission ici na terre, ce boi. Sabe? La mission dele est furar.
Ce bœuf a une mission de trouer les gens qui polluent la rivière qu'on va voir après.
Un éco-terroriste.
Allô, Dona Maria. Allô, seu Zé.
Allô,
esse boi quer dizer...
Esse boi quer dizer...
Não jogue lixo na maré.
Não jogue lixo na maré.
Porque mata os peixes.
Porque mata os peixes.
Os caranguejos.
Os caranguejos.
Os aratus.
Os aratus.
Os siris.
Os siris.
E toda a comida.
E toda a comida.
Que fortalece a ti.
Que fortalece a ti.
O boi do mangue.
O boi do mangue.
O gato bebe leite.
O gato bebe leite.
O siri não tem sangue.
O siri não tem sangue.
Lá vai os caranguejos.
Lá vai os caranguejos.
Atrás do boi do mangue.
Atrás do boi do mangue.
Quem mandou me chamar, quem mandou me chamar.
Quem mandou me chamar, quem mandou me chamar.
O gato vai chegar.
O gato vai chegar.
Eu falei gato.
Eu falei gato.
Quem são vocês?
A Livroteca outra vez.
Pediu pra parar?
Parou.
On a eu la parade du bœuf.
Boi, 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 boi.
da cara preta, pega esse menino que tem medo de cabeça.
Vai, 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 vai.
E aqui é a área de música e comunicação social.
On rentre au studio alors.
Oui, c'est l'arrêt de communication sociale, de musique, c'est un studio.
Plus insonorisé du coup, on entend piano, ordinateur,
pronto.
Mousse isolante.
Aqui a gente faz ensaio, gravação, production musicale d'artistes.
C'est un studio où ils enregistrent les chansons et des artistes qui n'ont pas l'argent pour enregistrer en fait.
Et la radio, la voix de Lama.
Et là-bas, il y a une radio qui s'appelle la radio Lama.
Et cette radio est une radio différente. Parce que c'est une radio que a gente usa a linguagem popular.
Et la radio, c'est une radio qui parle de la gente, de la communauté. Elle parle des problèmes. C'est fait pour la gente de la communauté. Il parle des thèmes comme le genre, la race, le racisme, la classe. Il parle différemment de ce que les gens disent de la communauté à l'extérieur. Que la gente qui vit là, c'est sale.
Misérables.
Des problèmes, c'est misérable, c'est pauvre. Et du coup, cherche de changer la vision de cet endroit.
Voilà. C'est une radio avec une fréquence FM, mais
oui.
Pirate un peu, je crois.
Oui, pirate, oui, des ouf.
Vocês estão ouvindo a voz da Lama, a rádio de andada do Pina. Mas Lama não tem pai, como é que vai ter avó? Só sei que assim. Essa é a rádio A Voz da Lama. Esse é o primeiro episódio da rádio de andada A Voz da Lama. Iniciativa do Núcleo de Comunicação Caranguejos Pensantes da Livroteca Brincante do Pina. E hoje você vai ouvir mensagens, notícias, brincadeiras e muito mais sobre crianças, alimentação, saúde, política, pescadoras, mulheres, drogas, onde o sistema não entra, a arte dá um jeito de entrar.
Galera, vocês sabiam que tem muitos remédios caseiros com plantas medicinais? Não? Então se liga aí. Não precisa tu ir correndo para uma farmácia para comprar aquele comprimido para tua gripe. Toma um chá de alho, um chá de gengibre com limão e mel. Eles são muito eficazes para a cura dessa tua gripe. Como um suco de acerola, um suco de laranja... Todos são ricos em vitamina C. Eles vão estimular o bom funcionamento das tuas células e a defesa do teu corpo. Se liga, não precisa ir para uma farmácia, espreme um limão com mel, toma que tua gripe, meu véi, vai embora. Vamos nessa?
Ah, e é isso. Aí, Maeva teve a ideia de fazer um jardim aqui atrás, em 2015. E hoje já tem ali... Muitas frutas, vamos lá.
On est dans le jardin où Maeva est venue à Recife dans le 2015 pour étudier. Et Maeva avait l'idée de planter les plants ici.
Au fond de la cour, donc il y a un bout de jardin avec des grands arbres.
Sabe, nós escrevemos projeto ambiental chamado Quintais Verdes.
Ils ont fait un projet, ils ont gagné la. Pour faire, qui s'appelle les quintals verts, du coup ferme vert, et pour conscientiser les gens et la question ambientale.
Projet environnemental.
Donc.
On a un projet d'atelier pour les vieux, pour les gens âgés, des plantes médicinales, et qui a duré un an, presque, plus ou moins.
Un an et demi. De alimento que pode aliviar a gripe. Fazer um lambedor caseiro é bem fácil. Água ao fogo e gengibre, tá ligado? Deixa a infusão por 30 minutos. Coloca o mel e recupera tudo.
Alô, seu Zé. Alô, dona Maria. Se liga na ideia informada e poesia. Alô, dona Maria. Alô, seu Zé. Esse recado é pra dizer: não jogue lixo na maré. Porque mata peixe, aratu, siri. E toda a comida que fortalece a ti. Faz a minha igreja. Resto de comida.
Nós somos. Também a gente faz parte das lutas sociais, né?
Esse projeto, você está no ar, faz parte de lutas sociais.
As lutas sobre a questão da moradia digna.
E uma dessas lutas lá, é l'habité digne.
L'habitat digne.
É. Vamos lá.
Então, marche um pouco na rua lá.
Nós estamos no Pina, zona sul de Recife. O Pina é o bairro que é dividido por quatro comunidades. O Bode é uma delas. Temos em média 15 mil pessoas. Boizinho bonito aí, ó. Um boizinho bonito demais. Né?
Pina é um quartier divisé em quatro comunidades. É uma dessas comunidades s'appelle Bode. E lá, plus ou menos, 15 mil pessoas.
A gente fala sobre também a especulação imobiliária. Os ricos querem nos tirar daqui.
Là, il y a une question de habitatif parce que les riches en fait, ils vont évacuer ces communautés là parce que ces terrains c'est un des plus chers du Brésil, hein, le troisième plus cher du Brésil après Copacabana. Du coup, les gens qui veulent faire des spéculations veulent prendre ces terrains et évacuer tout l'argent de la communauté pour faire des immeubles de gratte-ciel, en fait.
Parce que là, on est donc dans une petite zone à pied, on est entouré de gratte-ciel, en fait, qui ont l'air très luxueux. Et là où on se balade, c'est pas très luxueux. C'est des petites ruelles. Par contre, il y a du monde, c'est vivant. Et on suit Cacao dans les rues, tout le monde lui dit bonjour. Il est chez lui, quoi.
Compre. E aí, Kim? Compre. Esse lugar aqui é muito.
Esse lugar lá é realmente importante para a gente, porque é o primeiro lugar onde o projeto de biblioteca começou há 20 anos.
Quando on arrive, on voit qu'il y a pas mal de maisons qui sont détruites aussi. On est un mélange de maisons et de gravats. Il y en a qui ont été tombées déjà. Et on arrive au bord du fleuve. Avec des pêcheurs et des réparateurs de bateaux.
Oui, ici, après une lutte des 60 années, et les gens étaient bougés, étaient forcés à laisser les maisons parce qu'ils ont été bougés dans un projet de logement social. La préfecture, la municipalité a construit 60 logements pour les familles, mais en fait, là, l'agent est beaucoup, beaucoup plus. Du coup, l'agent est encore en train d'attendre la construction d'autres logements pour être colloqués là-bas.
400 cases. Aí, aqui, un lugar muito especial, porque foi aqui que eu achei o primeiro livro, o primeiro filho, o primeiro poema, o primeiro amor. Et também a primeira separação. Ah!
C'est un endroit, c'est vraiment important parce que c'est le premier endroit où il a trouvé le premier livre, le premier amour, le premier enfant, la première séparation.
Ah, mais c'est lindo, c'est lindo. Valeu.
Marchand de coquillages.
J'ai les cabelles, mon père.
Ici, c'est la première librothèque qui était pas comme maintenant. Mais, ouais.
Et là, on voit les maisons sur pilotis, du coup. Qu'on disait, comment ils appellent ça les...
Ah, palafitte.
Là, cette maison, il y a une semaine, elle était... il y avait deux étages.
Ils sont en train de casser les berges, là.
Ils sont en train de démonter fort. Ouais.
Ouais. Du coup, c'est les autorités qui démontent ou...
Ouais, apparemment, c'est la préfecture. Mais c'est dingue, voilà. Ça change, ouais, ça change de jour en jour. Oui.
Les pêcheurs de coquillages qui continuent le boulot. Le centre commercial Rio Mar, là, flambant neuf, brillant.
Il y a une campagne sur internet qui se chiama Minha casa
vai cair.
Sempre chegando, continuando.
Esse foi un projet d'une française, Fiona Forte.
Il y a eu un projet d'une française qui s'appelait Fiona Forti, un projet photographique qui s'appelait Ma maison va tomber. C'était déjà pour alerter sur la problématique des logements insalubres. Les palafitas. J'ai déjà habité dans une de ces palafitas pendant 8 ans. C'est compliqué. C'est pas humain de devoir partager ton espace avec les rats, avec les poubelles. T'as pas d'eau potable, pas d'eau propre. pas de tout à l'égout. Et puis les risques d'incendie avec l'électricité.
Pas l'électricité. Mais a gente occupe isso aqui há quase 200 anos.
On habite là depuis plus de 200 ans.
Os ricos de Boa Viagem.
On était là avant les riches de Boa Viagem.
Aí eu fiz um poema.
Aqui foi. J'ai fait un poème là-dessus.
O primeiro poema que
c'est le premier que j'ai écrit.
Sobre a questão do cuidado.
Ça parle de la question du soin envers la rivière.
Cuidado com as pessoas.
Envers les gens.
Com a natureza.
Envers la nature.
Aí eu faço uma brincadeira do
c'est
amor.
C'est des jeux de mots entre l'amour, hein, et la rivière.
Do amor com o rio. É assim, ó. A maré. Amar é lixo, merda, carniça, criação do Criador, criaturas não submissas. Amar é viveiro de miseráveis, por inércia ou falta de opção, latrina de boa viagem. Amar é abriga e alimenta o filho ingrato que a mata. Amar é sair da lama, reluzente como prata. A maré procura o rio para desabafar, mas inevitavelmente a maré vai abortar.
Não se mele, ouça, está aqui a voz da lama.
Vous êtes fortement invité à aller visiter le site internet de la Livrothèque, intégralement traduit en français, qui s'appelle livrotecabrincantedupina.citeo.one. Vous y découvrirez les multiples activités dont nous n'avons pas eu le temps de parler aujourd'hui, qui sont réalisées ou qui ont été faites à la Livrothèque. Cela vous permettra aussi d'accéder aux nombreuses productions audiovisuelles, musique, vidéo et bien évidemment radio qui émanent de ce haut lieu culturel. D'ailleurs, vous avez pu entendre quelques extraits des premières émissions de Voz do Lama. Vous avez aussi entendu des extraits musicaux du groupe Paddy Body, lui aussi présent sur YouTube et dont vous trouverez les liens par le site de la Livrothèque. Sur le site, vous pouvez aussi participer financièrement si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à ce projet qui continue de tenir bon malgré vents et marées depuis presque 30 ans. Les contacts sont là et n'hésitez pas, si vous passez par Recife, à aller leur rendre visite. Enfin, vous avez entendu au début de ce petit reportage l'introduction de l'album de Lama ao Caos du groupe Nação Zombie, un album fondateur du mouvement Mangue Beat.
Recife est aussi la terre du Mangue Beat, ce mouvement culturel incontournable de l'histoire musicale et politique du Pernambouc. Un mouvement d'interconnexion mené par l'artiste Chico Science, qui prenait alors le mélange des genres, la diversité culturelle et biologique, et un branchement entre Recife, ses traditions et son urbanité mondialisée. Le projet du Mangue Beat, avec un manifeste comme support, travaille à une autre considération de cette région classée dans l'une des plus pauvres du monde. Le manifeste des hommes crabes, appelé également caranguejo com cérebro, les crabes avec des cerveaux, est composé de trois parties. Une première sur le concept de mangue, de mangrove et d'écosystèmes produits par la rencontre de l'eau salée, de l'eau douce, qui symbolise la fertilité, la diversité, la richesse naturelle et culturelle. Une deuxième partie sur la ville de Recife elle-même, son passé colonial et sa fragile situation économique, sociale. Et enfin, la scène, qui est alors le moyen pour Chico Science et son groupe Nação Zombie de revitaliser la ville en connectant, disent-ils, les énergies du mangue à un mouvement pop de réflexion et de production en plantant une antenne parabolique dans la boue Nalama.
On continue notre petit périple dans les marges de la contre-culture brésilienne, avec maintenant des lectures proposées par Anaïs, de l'auteur Elton Krenak.
Elton Krenak est né en 1953 dans la vallée du Rio Doce, dans l'état du Minas Gerais, situé dans les Hautes Terres, au sud-est du Brésil. Un territoire du peuple Krenak auquel il appartient et dont l'environnement a été profondément affecté par les activités d'extraction minière. Il fait partie des figures éminentes qui ont émergé à la fin des années 1970 dans le contexte du grand réveil des peuples autochtones du Brésil. À la chute de la dictature militaire en 1985, sa contribution a été déterminante pour l'ouverture du chapitre indien dans l'élaboration de la Constitution brésilienne de 1988 qui obtiendra au moins sur papier la reconnaissance des droits pour les cultures et les terres indigènes. À cette même époque, il participe à la création de l'Union des Nations Indigènes devant représenter une force politique à l'échelle nationale. Militant du mouvement environnemental, il organise dès 1989 l'Alliance des Peuples de la Forêt, qui rassemble des communautés d'habitants et d'indigènes d'Amazonie et défend auprès de l'UNESCO le projet de création d'une réserve de biosphère sur la Serra do Espinhaço, qui verra le jour en 2005. À la fin des années 1980, il fonde l'organisation non gouvernementale Núcleo de Cultura Indígena, de défense des cultures indigènes. Depuis 2013, il dispense un cours à l'Université ouverte du Brésil sur le soin indigène. En 2016, l'Université fédérale de Juiz de Fora lui décerne le titre de docteur honoris causa pour sa contribution aux luttes pour les droits des peuples indigènes et pour son engagement dans la cause environnementale. Il y a une chaîne de montagnes rocheuses dans la région où le Rio Doce a été atteint par une coulée de boue toxique provoquée par l'exploitation minière. À cet endroit, le village Krenak se trouve sur la rive gauche du fleuve et sur la droite, il y a une montagne. On m'a appris que cette montagne avait un nom, Takukrak, et une personnalité. Tôt le matin, depuis le centre du village, les gens la regardent et savent immédiatement si la journée va être bonne ou s'il vaut mieux rester prudent. Quand son visage exprime qu'aujourd'hui elle n'est pas d'humeur à converser, chacun sait qu'il faut faire attention. Et quand elle se lève splendide, belle, parée de nuages blancs survolant sa tête, les gens disent « Vous pouvez faire la fête, danser, pêcher, vous pouvez faire ce que vous voulez ». On trouve, dans de très nombreuses régions du monde, un grand nombre de personnes qui parlent avec les montagnes. Dans les Andes, par exemple en Équateur, ou en Colombie, on connaît des lieux où les montagnes forment des couples. Il y a la mère, le père, le fils, une famille de montagnes qui partagent des sentiments et échangent tout un tas de choses. Les gens qui vivent dans ces vallées font des fêtes pour ces montagnes, leur donnent de la nourriture, leur font des cadeaux et reçoivent eux-mêmes des cadeaux des montagnes. La question que nous devons nous poser ici est « Pourquoi ces récits ne nous enthousiasment-ils pas ? Pourquoi faisons-nous le choix de les désavouer ou de les réfuter au profit d'un récit globalisant et superficiel en nous efforçant de nous raconter à tous la même histoire ? Hey, hey. Au Kenya, au début des années 1960, les Maasai sont entrés en conflit avec l'administration coloniale britannique parce qu'elle voulait transformer leur montagne en parc. Ils se sont révoltés contre l'idée grossière et pourtant tellement répandue dans tant d'endroits du monde qui voudraient qu'on transforme un site sacré en parc. Pour ma part, je pense que cela commence par un parc et que cela se termine en parking. Ils finissent toujours par réussir d'une façon ou d'une autre à entasser des voitures. Voilà un exemple typique d'un abus de ce qu'ils appellent raison. Alors que l'humanité est partout poussée à quitter son sol, les grandes entreprises très intelligentes, elles, s'emparent de la Terre. Nous, l'humanité, nous vivrons dans des environnements parfaitement artificiels, produits par ces mêmes entreprises qui dévorent les forêts, les montagnes et les fleuves. Et ils sont prêts à inventer n'importe quoi pour nous maintenir dans cette situation, dépossédés de tout, et si possible, pourvu que nous absorbions beaucoup de médicaments. Après tout, il faut bien faire quelque chose des déchets qu'ils produisent. On pourrait résumer ce reste à un tas d'objets destinés à nous divertir et à une montagne de médicaments. Vous pensez peut-être que j'invente encore un mythe, celui du monstre entrepreneurial ? Pourtant, ils sont bien réels. Ils ont un nom, une adresse et un compte en banque. Et quel compte ! Ce sont les propriétaires de la planète. Ils gagnent plus d'argent à chaque minute en multipliant dans le monde entier leurs centres commerciaux. Ils répandent leur modèle de progrès partout, censé refléter une idée de bien-être à laquelle nous n'avons d'autre choix que de nous soumettre. En attendant, l'humanité se sépare d'une manière toujours plus nette de cet organisme qu'est la Terre. Les seuls qui semblent encore avoir besoin de rester en contact avec la Terre sont tous ces oubliés répartis un peu partout sur la planète, sur les rives des fleuves, sur les bords des océans, dans les forêts en Afrique, en Asie ou aux Amériques. Ce sont les Kaisaras, les Indiens, les Quilombolas, les Aborigènes. Une sous-humanité. Il y a l'humanité respectable et il y a une couche organique, plus brute, rustique. Cette sous-humanité, composée de gens qui s'accrochent encore à la Terre. On pourrait penser qu'ils veulent manger la terre, boire la terre, dormir couché sur la terre, enveloppé dans la terre. La relation de ces gens avec la terre est une chose qui dérange, au point que le monde de l'entreprise a trouvé les moyens de renouveler ses vieux mécanismes pour séparer ses enfants de la terre de leur mère. Séparons ces gens de cette ressource naturelle qu'est la terre, ils ne savent pas l'exploiter, il serait bien plus judicieux de mettre à la place un tracteur ou un bulldozer plutôt que de laisser faire ce gâchis. Mais de quoi parle-t-on ? Pour qui ? Pour faire quoi ? Et que s'agit-il de faire durer ? L'idée que les humains puissent vivre séparés de la Terre dans une civilisation abstraite est absurde. Cette idée détruit la diversité, nie la pluralité des formes de vie et des modes d'existence. Elle prescrit le même repas, le même costume et, si possible, la même langue. Mais en réalité, que font-ils de nos fleuves, de nos forêts, de nos paysages ? Nous sommes tellement bouleversés par les transformations que subissent les régions que nous habitons, nous sommes tellement démunis de toute perspective politique sérieuse que nous ne parvenons simplement pas à nous lever et à reprendre notre souffle afin de porter notre regard sur ce qui importe vraiment pour chacun, pour les collectifs et les communautés dans leurs écologies. Selon Boaventura de Sousa Santos, l'écologie des savoirs devrait intégrer notre expérience quotidienne, inspirer nos choix sur le lieu où nous voulons vivre et notre expérience en tant que communauté. Nous avons besoin d'être critiques à l'égard de cette idée d'humanité homogène pour laquelle la consommation a pris toute la place dans les relations. Nos enfants, depuis l'âge le plus tendre, sont éduqués à devenir des clients. Personne n'est plus admiré que celui qui peut consommer davantage. Ils sont adulés au point d'en devenir immondes. Dans ces conditions, à quoi bon chercher à garder les pieds sur terre ? Pourquoi se fatiguer à vouloir rester en contact avec la terre et risquer d'être confronté à de l'altérité ? Pourquoi résister dans le monde d'une manière critique et consciente si vous pouvez vous contenter d'être un consommateur ? Cette idée de consommateur vous dispense de l'expérience de vivre sur une terre pleine de sens et ouverte à différentes cosmovisions. Davy Kopenawa a échangé pendant 20 ans avec l'anthropologue français Bruce Albert pour produire une œuvre fantastique intitulée « La chute du ciel, paroles d'un chaman Yanomami ». Ce livre a le pouvoir de nous montrer, à nous qui nous enfonçons dans cette espèce de fin du monde, la façon dont un ensemble de cultures et de peuples sont aujourd'hui encore capables d'habiter sur cette planète, en partageant une cosmovision complètement différente, en vivant dans leur milieu de telle manière que chaque chose est pourvue de sens. Cela signifie qu'ils peuvent à la fois vivre avec l'esprit de la forêt, vivre avec la forêt, être dans la forêt. Je ne suis pas ici en train de vous parler du film Avatar, mais de la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et j'en connais quelques-unes, qui habitent le territoire Yanomami à la frontière du Brésil et du Venezuela. Ce territoire est dévasté par l'orpaillage et l'extraction minière. Il est menacé par ces entreprises perverses que je viens d'évoquer et qui ne tolèrent pas ce type de cosmogonie, cette capacité d'imagination et ces modes d'existence qu'un peuple originaire comme les Yanomami est capable de produire. Notre époque s'est spécialisée dans la création du manque, de sens pour la vie en société, de sens pour l'expérience de la vie elle-même. Cela engendre une très grande intolérance à l'égard de quiconque est encore capable d'éprouver le plaisir d'être en vie, de danser, de chanter. Et il y a plein de petites constellations de gens éparpillés dans le monde qui dansent, chantent, font tomber la pluie. Le genre d'humanité zombie que nous sommes appelés à intégrer ne tolèrent pas tant de plaisir, tant de jouissance de la vie. Alors il ne leur reste, comme moyen de nous faire abandonner nos propres rêves, qu'à prêcher la fin du monde. Ma provocation concernant les idées pour retarder la fin du monde suggère très exactement ceci. Développons nos forces à pouvoir toujours raconter une histoire de plus, un autre récit. Si nous y parvenons alors, nous retarderons la fin du monde. Comment les peuples autochtones du Brésil ont-ils fait pour résister à la colonisation qui voulait mettre fin à leur monde? Quelle stratégie ces peuples ont-ils utilisé pour traverser ce cauchemar et finalement atteindre le 21e siècle en étant encore capables d'introduire un peu de dissonance dans ce vaste cortège des bien-pensants? J'ai pu observer les différentes techniques que nos ancêtres ont élaborées. Je m'en suis nourrie, tout autant que la créativité et de la poésie qui ont inspiré la résistance de ces peuples. La civilisation les appelait des barbares. Elle a mené une guerre sans fin contre eux, avec l'objectif de les transformer en personnes civilisées qui pourraient intégrer le club de l'humanité. Seulement, nombre de ces personnes ne sont pas des individus, mais des sujets collectifs qui tissent des relations sociales avec tout ce qui les entoure et sont parvenus à transmettre leur vision du monde à travers le temps. Parfois, les anthropologues limitent la compréhension de cette expérience, qui n'est pas uniquement culturelle, mais qui doit être comprise comme une stratégie consciente de résistance. Je sais que quelques anthropologues sont susceptibles de me lire, ne soyez pas nerveux. Combien d'entre vous ont-ils vu que ces stratégies n'avaient pour but que de retarder la fin du monde? Je n'ai pas inventé cela, mais je me nourris de la résistance obstinée de ces peuples qui conservent une mémoire profonde de leur terre. Ce que l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano a appelé « la mémoire du feu ». Dans ce livre et dans les veines ouvertes de l'Amérique latine, il montre comment les peuples des Caraïbes, d'Amérique centrale, du Guatemala, des Andes et du reste de l'Amérique du Sud se sont forgés la conviction que la civilisation était profondément ambivalente. Ils ne s'en sont pas rendus compte immédiatement, mais ils ont rapidement compris que le programme des civilisés était fondé sur un principe dangereux, celui du pillage.
Vou cantar agora. Xoxô Pavão, sai de cima do telhado.
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 Vai deixar meu bebê dormir.
Eu só me lanço cegar.
Vai deixar meu bebê.
Pourquoi la sensation d'être en train de chuter nous met-elle si mal à l'aise ? Pourtant, nous ne faisons rien d'autre que chuter depuis si longtemps. On tombe, on tombe, on tombe. Alors pourquoi la chute nous préoccupe-t-elle tant maintenant ? Des centaines de peuples autochtones sont encore bien vivants. Ils racontent des histoires, chantent, voyagent, nous parlent et nous enseignent plus que nous avons à apprendre de cette humanité qui n'est pas cette chose à part, est la plus intéressante au monde, mais qui fait partie du tout. Peut-être que cette idée ôte un peu de prestige à ce que nous pensons être, mais elle contribue à prendre en considération tous ces autres qui font ce voyage cosmique avec nous. En 2018, quand nous étions sur le point d'être agressés par une situation nouvelle au Brésil, l'auteur fait ici référence à la période de campagne pour la présidence de Jair Bolsonaro, nombreux sont ceux qui m'ont demandé « Comment les Indiens vont-ils pouvoir faire face à tout cela ?» Je leur répondais simplement « Cela fait 500 ans que les Indiens résistent. À cet instant, ce qui me préoccupe davantage, ce sont les Blancs. Comment eux vont-ils faire pour s'en sortir ?» Chanter, danser et vivre l'expérience magique de suspendre le ciel est une chose partagée par beaucoup de traditions. Suspendre le ciel, c'est élargir notre horizon. Non pas l'horizon que nous pourrions conquérir, mais notre horizon existentiel. C'est enrichir notre subjectivité qui est aussi ce que l'époque que nous vivons veut consommer. S'il existe une aspiration à consommer la nature, il en existe aussi une à consommer les subjectivités, nos subjectivités. Alors nous allons les vivre avec la liberté que nous serons capables d'inventer, celle qui résistera au marché. Et puisque la nature est attaquée de telle manière qu'il nous est devenu presque impossible de la défendre, efforçons-nous de préserver nos subjectivités, nos visions, nos poétiques de l'existence. Nous ne sommes pas les mêmes, et c'est merveilleux. Nous sommes comme des constellations. Le fait que nous puissions partager des espaces, que nous voyagions ensemble, ne signifie pas que nous sommes les mêmes. Cela signifie que nous sommes capables de nous attirer les uns les autres par nos différences, plutôt que par l'accession à un statut de commune appartenance à cette idée d'humanité. Nous n'avons jamais connu qu'une seule manière de tout homogénéiser, et celle-ci nous a ôté la joie de vivre. Merci à toute l'équipe de la Livrothèque, merci à Cacao et à ses acolytes, au traducteur Enrico. Un grand merci à Antoine, à Benja et Flavia, à Raoni, à Renata, Léa, Laura et Noémie, et dédicace à Basile. Merci aux nombreux groupes dont j'ai croisé le chemin. Entre autres, le Caboclinho das Sete Flechas, le Maracatu Feminino di Baxou do Coração Nazareno, tous les groupes entendus au défilé de Atapuys, les Maracatus de la Nuit des Tambours Silencieux à Olinda, les Afochés, les groupes de Coco, en particulier le groupe Chamba das Yabas du groupe Bongar, le Maracatu rural Estrela Brilhante di Nazaré da Mata, mais aussi le Boi Marinho di Recife. Cette Ethnovibro sera rediffusée vendredi après-midi, mais vous pourrez aussi réécouter cette émission à votre guise, comme d'habitude sur la page podcast de Radio Escapade et aussi sur l'audioblog Ethnovibro hébergé par Arte Radio. Je vous donne rendez-vous en mars, encore le 4e mercredi du mois, pour un cabaret radio live sur le carnaval à Ambert, dans le Puy de Dôme, cabaret préparé sur place avec de nombreux complices. D'ici là, bonne vibrette à vous!